À présent, comme chaque mardi, on reçoit un des membres de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier pour présenter une action, une campagne ou un dossier de la LDH. Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Tadei qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ensemble pour évoquer, quelques jours du 11 novembre, la décimation des régiments étrangers lors de la guerre de 14-18. Une réhabilitation qui est dans l'air du temps depuis quelques années déjà, mais qui peine un petit peu à se confirmer. Hein.
Oui, effectivement, les responsables politiques, à force de remettre ça sur la table par différentes associations, la nôtre et aussi l'ARAC, hein, qui est l'Association républicaine des anciens combattants, peu à peu fait des pas, disons, dans les discours politiques pour tenter à réhabiliter les victimes, disons, des tribunaux militaires, hein, ceux qui ont décidé des exécutions. Mais là, aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose qu'on a découvert justement en travaillant sur ces dossiers. C'est nos historiens, puisque bon, on a des historiens, hein, autant que de juristes.
Gilles Manceron notamment.
Voilà, Gilles Manceron. Et donc, on a découvert, en fouillant dans les archives de la Défense nationale, donc quelque chose qui maintenant est déclassé, hein, il n'y a pas de problème, qu'en fait, les victimes de ces tribunaux militaires étaient, donc ceux qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire de conseil de guerre, étaient moins nombreuses qu'en fait des victimes extrajudiciaires, très peu connues, et qui ont fait l'objet de décimations, et qui en plus étaient des régiments étrangers volontaires. Mmh. Parce qu'il faut savoir que, donc à cette époque, il y a eu, en particulier venant des pays de l'Est, c'est-à-dire venant de Chypre, de Grèce, d'Arménie, et des Juifs d'Europe centrale par exemple, des gens qui se sont engagés, qui ont fait des régiments entiers volontaires. Et donc, on a découvert qu'à travers qu'on voit les chiffres entre les morts officiels et les disparus, qui ne pouvaient être justifiés par des actions militaires, on avait d'énormes trous. Mmh. Donc, en particulier, je me base sur les travaux des historiens qui ont fouillé dans ces archives par rapport à leur incorporation dans la Légion étrangère, où, les conseils de guerre étaient très peu existants et c'était en fait des exécutions expéditives.
Mmh. Donc des fusillés qui sont plus nombreux qu'on ne le croit en fait.
Voilà, en particulier l'épisode qu'a mis à jour Gilles Manceron, c'est l'épisode de Scheller qui est de juin 1915 où vous aviez un régiment grec dont on a trouvé un différentiel entre 300 et 50, c'est-à-dire à peu près 250 personnes dont on n'arrive pas à justifier la disparition. Et on a un témoignage précis qui vient d'un frère, enfin maintenant cette personne est disparue, hein, d'un frère d'un des membres de l'ARAC, et qui est grec, qui était grec, hein, qui était incorporé dans ces régiments. Je vais vous en lire un passage, si vous voulez bien. Mmh. Voilà. Un jour, des Alsaciens de notre compagnie sont tombés nez à nez avec des Allemands et ils ont commencé à se parler. Nous avons découvert que les soldats allemands étaient des hommes comme nous, mais lorsque nous reçûmes l'ordre d'attaquer les Allemands, ça n'a pas été la même chanson. Toute la compagnie refusa de tirer. Alors ça n'a pas traîné. Le commandement nous a relevés et emmenés en camion bâché à l'arrière tout proche. Une fois descendus des camions, les officiers nous ont fait mettre en colonne par deux, nous regarder face à face et reculer de deux pas. Puis un groupe d'officiers supérieurs passa entre les deux colonnes et l'un d'entre eux nous compta par 10 et abattit à chaque fois le dixième de deux coups de pistolet. Mon ami, venu avec moi de Libye de Chypre, est mort à ce moment-là.
Mmh. Donc ça montre aussi le contexte d'une guerre qu'on savait un petit peu perdue d'avance, les mauvaises décisions qui ont été prises d'entrée, alors que c'était une boucherie pour rien, quoi, en quelque sorte. Quoi. Donc, voilà. Dans ce contexte-là, c'est sûr que ceux qui tout d'un coup se disaient « mais attendez, on peut pas, faut arrêter là », donc ils tombaient immédiatement sous le coup du « faut pas que ça se sache » aussi, la volonté peut-être de mater et de dissimuler. brûler finalement c'est cette espèce de désobéissance civile militaire.
Voilà, alors ce sont des gens qui s'étaient engagés volontaires, c'est-à-dire qui peut-être au début comprenaient le contexte d'une lutte, à savoir que malgré tout, je vous rappelle l'assassinat de Jaurès, hein, cette oui. lutte était beaucoup décriée à l'époque aussi, hein, parce qu'il y avait un contexte de marchand d'armes et tout qui a beaucoup attisé le feu de cette lutte à ce moment-là. Mais lorsqu'ils se sont trouvés en fait de circonstances humaines, eh ben, ils ont, en quelque sorte, ils sont redescendus sur Terre. Et là, malheureusement, leur objection de conscience n'était pas du tout prise en considération.
Alors, réhabiliter aujourd'hui pour le gouvernement, ça veut dire quoi concrètement finalement ?
Alors, le gouvernement, dans ses déclarations publiques, la dernière date de Lionel Jospin, mais je crois que les gouvernements qui ont suivi ont dit aussi lors des cérémonies que... Effectivement, il fallait tourner une page, mais il n'y a pas eu encore, si vous voulez, le pas décisif qui permettra, par une action judiciaire, de réinscrire les noms des gens fusillés sur les monuments aux morts qui étaient tombés finalement au même titre que les autres, mais dans des circonstances différentes.
Oui, même l'actuel président avait, en novembre 2008, avait dit l'année suivante à l'Arc de Triomphe, il avait évoqué les fusillés, pour l'exemple, qui attendent qu'on leur rende justice, qui attendent toujours.
Et qui attendent toujours. C'est malheureusement, je pense qu'il y a des freins, hein. Il y a des lobbying, certainement militaires et autres, hein, mais on est quand même à quelque chose qui est pas loin du centenaire, hein, donc il faudrait faire ce pas décisif.
Alors on retrouve un article de Gilles Manceron, historien et vice-président de la LDH, en cherchant assez facilement sur Internet. J'imagine que c'est un dossier qui risque de durer pour qu'on en voit le bout un jour.
Oui, alors ce dossier a été ouvert pour notre part, hein, dans la Ligue des droits de l'homme, dès 1900, aux alentours, un peu avant la Deuxième Guerre, hein, par Victor Bach, hein, un de nos présidents, parce que lui-même était originaire de Slovaquie. Hein, ce dossier est récurrent à la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que pour des raisons juridiques de réhabilitation et pour le fait aussi que dans nos rangs, il y a quelque chose qui est peu connu, mais qui a fait que la grande hémorragie de nos militants a eu lieu justement souvent sur des schismes de pacifisme et de lutte armée. Et donc, ne serait-ce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi un combat sur les objecteurs de conscience qui n'étaient pas encore vraiment admis dans le panel juridique français. Et donc, ce combat, nous le portons régulièrement.
Alors, pour terminer, 2014 sera le centenaire du début de la Grande Guerre, comme on l'appelle. Est-ce que ça peut jouer justement pour que finalement, il y ait les choses qui avancent un petit peu plus vite pour l'histoire de...
Alors, ça devrait être l'occasion ou jamais. Nous rappelons tous les ans, le 14 à Agnane, nous sommes devant un monument pacifiste, un des rares, il y en a quelques-uns, il y en a un autre à 40, où ce n'est pas une stèle en mémoire à la guerre, en quelque sorte, mais une stèle en mémoire à la paix qui aurait pu avoir lieu. Et donc, nous commémorons. Il y a d'autres endroits, hein. Il y a un endroit dans le Gers, à Couers, il y a d'autres endroits comme ça en France où un certain nombre de militants de différentes associations rappellent que finalement les guerres sont de vraies boucheries et qu'il faudrait faire tout pour les éviter.
Jean-Charles Talley, merci. On retrouvera la semaine prochaine un autre membre de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier pour un autre thème et on se retrouve pour notre part dans à peu près un mois.
Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.